c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Il est midi 19, vous êtes dans le magazine du Sud-Est de Fréquence Mistral et nous sommes aujourd'hui avec Claire Zinga, formatrice et conseillère pour améliorer l'accès aux droits des personnes en situation d'illettrisme. C'est vous, Claire, qui avez choisi cette musique de Kendry Girac. Vous me disiez que c'était une personne qui avait été en situation d'illettrisme.
C'est ça, c'est quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il lisait, ce qu'il écrivait, malgré avoir été à l'école et qui, du coup, a réappris à les réécrire.
Et vous savez son parcours, comment il a réussi à réapprendre ?
Alors non, j'avoue pas entièrement, mais voilà, il y a un film en tout cas, Champion, qui est passé à la télé, qu'on peut regarder assez facilement et qui témoigne d'une histoire en tout cas de quelqu'un qui a réappris à lire et écrire. C'est pas la sienne exactement, mais...
Peut-être inspiré alors. Donc, on va parler d'illettrisme aujourd'hui et pour commencer, je vous propose qu'on définisse ce terme finalement. Qu'est-ce que l'illettrisme ?
Donc déjà, c'est un terme, avant que j'oublie, qu'on utilise plutôt dans la sphère un peu d'experts, de professionnels, mais qu'on n'utilise pas trop avec les personnes, parce que c'est un mot qui est assez dur hein, quand même. En fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans ce mot, on parle de personnes donc adultes, hein, selon la définition, qui, malgré le fait d'avoir été à l'école, ne maîtrisent pas les compétences de base, donc lire, écrire et ou compter. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile au niveau du quotidien. On parle vraiment de choses, des difficultés à comprendre la lecture, l'écriture ou le calcul dans les choses de la vie courante.
Mais donc pour définir, pour voir les limites de cette qualification entre guillemets, est-ce qu'on pourrait le comparer avec l'analphabétisme ou des personnes allophones ? Quelle différence finalement ?
Alors non, quand on parle d'analphabétisme, on parle vraiment de gens qui n'ont jamais été à l'école. Donc ça, c'est très rare en France. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Et quand on parle de personnes allophones, on parle de personnes qui, en fait, ne comprennent pas la langue française. Donc là, on n'est vraiment pas du tout sur ces mêmes publics-là.
D'accord. Et donc, ces personnes qui sont dites en situation d'illettrisme, on gardera ici ce terme pour plus de facilité, mais représenteraient... Alors, pendant de longues années, on avait ce chiffre de 7% de la population de 18 à 64 ans, pardon, qui seraient concernés. Et puis, une nouvelle étude de l'INSEE, qui porte sur 2022, affiche une baisse de ce pourcentage à 4%. Ça représente environ 1,4 million d'adultes concernés. Est-ce que vous voulez commenter ces chiffres et notamment peut-être cette évolution ?
Alors, j'avoue qu'on a un peu tous du mal hein, dans ce milieu-là à comprendre ce chiffre 4%. D'ailleurs, la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui utilise pas mal ces chiffres, a aussi pris dans cette même étude plutôt le choix de parler d'une personne sur 10 qui est en forte difficulté face à la compréhension de la lecture et de l'écriture. Donc, en fait, la limite, elle est pas évidente. De manière générale, dans les années 80, on est dans les 10%. Moi, j'ai travaillé en Allemagne sur cette thématique-là et on était d'abord dans les 14%, puis dans les 12%. Donc après, ça dépend un petit peu aussi des gens qu'on prend en compte. Il me semble que dans la dernière étude, il n'y a pas justement toutes les personnes qui sont en maison d'arrêt, qui sont dans des lieux de réhabilitation, qui sont sans domicile fixe, qui n'ont pas d'adresse, etc. Donc du coup, on a pas mal, et on sait qu'il y a, les chiffres de 2011 disaient qu'il y avait 40% des gens en maison d'arrêt qui étaient en situation d'illettrisme. Donc en effet, on oublie une grande partie de la population. C'est pour ça que, en tout cas, moi, je le vois bien dans la réalité ici. Quand j'en parle assez facilement avec des gens, beaucoup me disent, quand je dis « Et toi, t'en es où au niveau de la compréhension ?» Pas mal me disent « Ah bah oui, moi, c'est compliqué » ou « Ça a été compliqué pendant longtemps. »
C'est difficile de faire la différence entre ce que vous disiez, le terme de difficulté de lecture et d'écriture et l'illettrisme, puisque c'est finalement très lié. Et on retrouve dans les chiffres la différenciation, mais sans forcément la... comprendre.
Alors, une des problématiques aussi, c'est qu'en fait, donc on va parler plutôt de remise à niveau quand on sera en difficulté de compréhension, mais peut-être plutôt faire des erreurs. Et le problème, c'est qu'on va souvent éviter de lire et écrire quand on fait trop d'erreurs et qu'on a vraiment trop de difficultés pour comprendre. Du coup, le fait d'éviter va faire qu'on va se retrouver quelques années plus tard en situation d'illettrisme. C'est pour ça qu'en fait, sachant qu'il y a très peu d'offres pour apprendre à lire et écrire en région PACA, c'est pour ça que c'est assez étonnant de se dire que dans la région, en tout cas ici, il y a aussi peu de gens qui, enfin, où beaucoup auraient réappris. Ce serait un peu étonnant.
Nous allons pouvoir revenir sur les questions justement d'évitement, de contournement des personnes qui sont concernées. Mais déjà, pour comprendre quelles sont les causes de cette illettrisme, puisque ce sont des personnes qui sont allées à l'école, cela signifie que l'école ne permet pas de détecter ces difficultés ?
Alors, si je pense qu'à l'école, il y a pas mal de gens qui s'en rendent, d'enseignants qui s'en rendent compte, mais en effet, c'est une thématique qui a été dont on n'a pas parlé, dont l'éducation nationale n'a pas voulu parler pendant des années. Donc ça, c'était vraiment, tous les experts en parlent. En Allemagne, c'est pareil. Depuis un an et demi, il me semble, l'éducation nationale a embauché des chargés de mission, enfin des personnes sur cette thématique-là. On commence à en parler. Ils considéraient avant que tant qu'on n'avait pas 18 ans, on ne pouvait pas être en situation d'illettrisme parce qu'on était encore en apprentissage. Sauf qu'on sait que c'est très rare les écoles où on continue à apprendre à lire et écrire tout au long du parcours. En fait, une fois le CP-CE1 passé, on n'est plus dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de base. On va en fait améliorer les compétences, mais on ne va plus être dans cette compréhension-là. Donc quelqu'un qui aurait raté le coche, je dirais, pour différentes raisons, va avoir énormément de difficultés à rattraper ce retard. Surtout quand il y a un système de rattrapage, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est parfois fait par des personnes extérieures qui viennent quelques heures dans la semaine. Mais donc ça veut dire qu'on demande à des enfants non seulement de faire le parcours, le programme, plus de réapprendre. Donc, alors que c'est des enfants qui souvent sont en difficulté. Donc les raisons, en fait, elles sont souvent multiples. Il y a rarement une raison qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Ça peut être, vous imaginez bien, des problèmes importants à la maison, cumulés avec un problème à l'école. Donc ça peut être des situations d'harcèlement à l'école, ça peut être des situations de violence à la maison, ça peut être des histoires d'abus, ça peut être un divorce qui est très mal vécu, ça peut être de nombreux déménagements, ça peut être la migration d'un parent ou des difficultés de compréhension, de lecture, d'écriture d'un parent, même sans migration, peut être un des facteurs. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Voilà, donc souvent, ces multiples facteurs font qu'on se retrouve dans cette situation-là. Ça peut être aussi un facteur technique. Par exemple, on ne voit pas bien ou on n'entend pas bien et ce n'est pas détecté. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas détecté ? Ça peut être parce que justement, à la maison, il y a pas mal de difficultés ou parce qu'à l'école, il y a différents difficultés aussi. Un enseignant qui est souvent malade, plusieurs enfants qui ont des difficultés. Donc ça passe à travers.
J'allais demander à partir de quel moment peut-on dire qu'il y a un décrochage dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ?
C'est difficile à dire, mais je dirais que si déjà en CM1, on ne comprend pas ce qu'on lit, des choses assez simples qui ont du sens pour l'enfant, on peut déjà se dire que là, il y a une difficulté s'il n'y a pas quelque chose qui est mis en place vraiment sur les compétences de lecture, ce sera difficile.
Donc ces personnes jeunes peuvent être identifiées, mais finalement elles vont garder, si elles ne sont pas identifiées et accompagnées, elles vont garder ces difficultés toute leur vie. Ça ne les empêche pas de travailler. On se rend compte que beaucoup de personnes travaillent. Donc on rappelle ici que ce n'est pas une question d'intelligence, l'illettrisme, c'est vraiment des difficultés à la lecture et à l'écriture. Elles ont souvent beaucoup de compétences. C'est un point sur lequel vous insistez beaucoup, Claire, vous.
Oui, en effet. Voilà, on a tous en fait des compétences différentes. Il y en a qui sont très bons en art, il y en a qui sont bons en sport, il y en a qui sont bons. Voilà, on va pas juger quelqu'un sur le fait qu'il sache pas bien faire du sport. Les compétences de lecture-écriture, c'est pareil, c'est une des compétences. Alors, bien sûr, on en a vraiment besoin dans la vie, dans notre société ici en Europe. Donc, c'est important. Mais ces gens-là ont énormément de compétences et ils développent énormément de compétences du fait de cette difficulté-là. On a remarqué parmi moi tous les gens que j'ai rencontrés et les professeurs professionnels qui travaillent là-dedans depuis 30-40 ans, une capacité de mémoire plus importante que d'autres. Parce que vous imaginez, sans rien noter de vos rendez-vous, de tout ce que vous entendez, forcément, on développe cette mémoire. Une mémoire visuelle aussi énormément, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables d'écrire des textes sans les comprendre, donc ils vont faire une espèce de photo visuelle et ils vont réécrire. C'est comme ça qu'il y en a certains qui arrivent même à avoir un CAP. Ça va toucher 8% des personnes qui ont un CAP.
Puisque ce sont des personnes qui, on en parlait rapidement tout à l'heure, on peut revenir dessus, développent des stratégies de contournement, d'évitement pour pas avoir à dire qu'elles ont ces difficultés.
C'est ça. Je viens de me rappeler en effet ce que je voulais dire tout à l'heure sur les compétences. Donc on a énormément de gens qui sont très manuels, qui du coup, parmi les personnes qui ont été demandées dans cette étude, là, des personnes en situation d'illettrisme, il y a 30% qui sont des ouvriers. On va vraiment trouver des gens qui savent tout faire de leurs mains. Enfin, c'est assez incroyable. Et moi, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient responsables d'une équipe en maison de retraite, hein, qui avaient une capacité de communication très élevée aussi et beaucoup d'humour, enfin, dans les stratégies qu'on développe, ça va être beaucoup d'humour en disant je prends comme toi, ou alors moi j'ai pas le temps de m'embêter avec ces choses. Enfin voilà, en tout cas, je saurais pas refaire leur humour, mais en tout cas, ils ont vraiment développé plein de stratégies. Oh, tu sais mieux écrire que moi, oh, tu sais, moi c'était jamais mon truc. Voilà, et du coup, ils ont oublié leurs lunettes, ils ont mis parfois un bandage à la main en disant je peux pas écrire, je me suis blessée. Voilà.
Plein de stratégies. On imagine quand même que ce sont des profils de personnes, enfin des métiers dans ce cas, qui demandent plutôt du manuel que justement de l'écriture. Est-ce qu'il y a un profil type ? On parlait des ouvriers, 30% des ouvriers. Est-ce qu'il y a des profils types qui ressortent tout de même ?
Alors, ce n'est pas 30% des ouvriers, juste pour être sûr que ce soit bien compris. Parmi les personnes en situation illettrice, 30% sont ouvriers. Dans le profil type, on va plutôt parler de personnes qui, justement, vont dire « Non, moi, je n'ai pas de mail » ou alors « N'utilise pas le mail ». Ça peut être ça, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être des gens qui, justement, il y a l'oral, mais dès qu'il faut faire un papier, non, ce n'est pas ça. C'est difficile, en fait. On va vraiment avoir des publics très différents qui viennent de milieux sociaux très différents aussi. Mais bien évidemment que la grande précarité, avec plusieurs facteurs difficiles, va engendrer plus de problèmes en situation d'illettrisme, c'est sûr.
Alors, on parlait de chiffres. On va écouter tout de suite un témoignage d'une personne que vous suivez, Claire, que vous accompagnez, votre apprenant, on peut dire, que j'ai rencontrée à l'occasion de la journée de clôture d'un projet leader développé ces 3 dernières années pour lutter contre l'illettrisme, mais aussi l'électronisme, pardon, sur nos territoires, 0405. On écoute tout de suite ce témoignage.
Je viens d'Alsace, je ne sais pas lire et écrire.
Ah bon.
J'apprends. À lire et écrire avec Claire. Voilà, j'ai 64 ans. Voilà, et j'ai mon permis. J'ai venu d'Alsace et tout seul. Et puis bon, grâce à Claire et puis Nathalie, qui m'ont demandé si je voulais pas venir. Et maintenant je sais mon alphabet, mais j'ai un petit blocage pour lire.
Grâce. Il y a des mots qui reviennent, hein, quand
il
même.
Il y a des mots qui reviennent, oui, que j'arrive à lire. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur, mais j'arriverai quand même. Mm-hmm. Mais grâce à Claire et à Nathalie...
Tu arriveras à faire quoi, du coup ? C'est quoi ton objectif ?
Mais moi, je voudrais, mon objectif, je voudrais lire le journal. Mais bon, j'ai...
Tu as réussi à travailler ?
J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. J'ai travaillé pendant 13 ans comme bûcheron. Après, j'ai été fonctionnaire, j'ai fait les poubelles. Et puis après, j'ai fait les déchetteries. Puis déchetterie, j'ai chopé problème d'as. Et puis voilà, j'ai venu habiter ici. J'ai toujours travaillé, toujours. Et encore maintenant, j'ai 64 ans, j'aide les paysans à Saint-Clément. Je ne peux pas rester sans rien faire. Et puis je travaille beaucoup de mes doigts,
de
mes mains. Je fais beaucoup de choses. Ouais. Claire, elle peut le dire, que je fais pas mal de choses. Avec mes mains.
Et est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui ont aussi des filles sur le territoire?
J'ai rencontré quand je joue à la pétanque, parce que j'aime un peu de loisirs, je joue à la pétanque, j'ai rencontré des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas lire, qui ils n'ont pas le courage de le dire, et on le voit de toute façon. On le voit qu'ils n'ont pas le courage de dire.
Tu disais que tu avais vu des gens dans des usines aussi, que tu connaissais
un peu des
gens.
Dans les usines, chez moi, il y avait des gens qui ne savaient pas lire, écrire. Même dans mon boulot, en faisant les poubelles, j'en avais deux que je ne savais pas non plus, qui ne savaient pas lire et écrire. Mais,
Est-ce que tu penses qu'ils pourraient du coup réapprendre à lire et écrire?
Eh bien, ça va que des portes, il faut qu'il lui demander à son patron déjà, lui dire, écoutez, je ne sais pas lire et écrire, il faudrait que vous m'emmeniez ou voir quelqu'un, voir une prof, quelqu'un. Il faut qu'on trouve quelqu'un. Je n'aurais pas trouvé Claire. Et encore, c'est Nathalie, parce que Nathalie m'a connu aux Acacias à Briançon. On faisait la gym, tout ça. Il nous donnait une feuille, il nous marquait. Puis nous, moi, j'ai dit, excusez-moi, moi je ne sais pas lire et écrire. Alors il nous faisait en photo, les heures, le matin, avec le vélo, à tel et tel. Bon, les heures, c'est pas grave, je trouvais. L'après-midi, ça allait. Alors bon, comme Nathalie, elle savait que je ne savais pas lire, c'est elle qui m'a téléphoné pour venir avec Claire, tout ça. Et pourtant, j'ai été à l'école. Hein. Et personne ne me demande comment j'ai eu mon permis.
Avec les images.
J'ai mon permis, j'ai passé le code la première fois. C'était 12 fautes et j'en ai fait 16. Alors je l'ai raté. Alors je lui ai dit à mon auto-école, j'ai dit, écoute, tu vois pas, je ne sais pas lire et écrire. Ah, mais il me dit, c'est pas grave, on va le passer en oral. Et je l'ai passé avec l'inspecteur, moi et lui. Je l'ai eu du deuxième coup. Et la conduite, je l'ai eu du deuxième coup aussi. Mmh. Voilà. Et j'ai venu de là-bas, d'Alsace, à ici.
Mmh. Mais ce qui aurait été top, ce serait qu'ils te disent, bah, attends, c'est pas grave. Et tu sais que tu peux aussi réapprendre à lire et écrire. Parce que oui. Le problème, c'est que si tu as un accident de voiture, un jour, là, tu dois signer un contrat avec quelqu'un.
Ah ben, ça, moi, j'appelle les gendarmes tout de suite. Moi, j'appelle les gendarmes.
Beaucoup de choses dans ce témoignage, des points dont on a déjà parlé et d'autres dont on va parler, on va revenir dessus. Il y a toutes les stratégies d'évitement dont on parle. Le fait aussi, c'est là-dessus surtout que je voudrais rebondir, que cette personne a été orientée vers vous. Il en parlait quand même. Il me dit qu'il n'osait pas le dire, mais il en a quand même parlé autour de lui un petit peu et c'est ce qui a permis peut-être aussi d'ouvrir cette porte. Mais il y a une sorte de tabou, on n'en parle pas, il parle de ces personnes à la pétanque qui n'en parlent pas. Il y a une sorte de tabou autour de ce sujet quand même.
Bien sûr. On est dans une société où en fait la lecture et l'écriture a énormément de poids. Et quand on fait une erreur, on est regardé du doigt. Enfin, c'est, voilà. Donc du coup, il y a vraiment une honte hein, qui est mise, qui est portée par les personnes et qui est aussi vécue. C'est-à-dire que les personnes sont jugées. Beaucoup en fait l'ont dit, elles l'ont dit à l'école en disant « mais je ne comprends pas ». Mais en fait, on ne pouvait pas imaginer qu'elles ne comprenaient pas des choses aussi simples. Donc je pense qu'au départ, les personnes autour ne comprennent pas qu'elles ne comprennent pas, en fait. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la thématique et on ne peut pas s'imaginer ça. Donc, quand les personnes françaises, justement, le disent, on va leur dire « mais tu as été à l'école ». Enfin, on ne va pas comprendre. Alors qu'une personne qui, justement, serait étrangère, mais qui aurait peut-être la même problématique, on va se dire « bah oui, c'est forcément, elle n'a pas été à l'école ». Ou c'est normal. Mais en tout cas, dans le système français, on a du mal à s'imaginer qu'il y ait autant de personnes qui, chaque année, se retrouvent dans cette situation-là. Donc, le tabou, en fait, il est vraiment, il vient des personnes, mais il vient de nous, en fait, de la société. Il vient, en fait, beaucoup de gens d'entre nous, je pense, qui écoutent la radio aujourd'hui, doivent connaître des personnes, c'est sûr, puisqu'on est à une personne sur 10 à peu près. Donc, que ce soit un ami, un voisin, quelqu'un qui a travaillé pour nous, quelqu'un qui... on connaît des personnes qui en ont parlé, qui nous ont dit qu'elles avaient des difficultés. On n'a pas été plus loin pour leur demander à quel point est-ce que c'est un problème pour toi. Et je pense que si on osait en parler et qu'on considérait les personnes d'égal à égal, c'est-à-dire que bah oui, elles ont cette difficulté-là, mais elles ont plein d'autres compétences que nous, on n'a pas, et bien en fait, si ça devient, ce ne serait pas un tabou, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a des formations qui ont existé dans les années 80, etc., après, mais en fait, les personnes n'étaient pas au courant de ces formations et du coup ne venaient pas. Ah, donc du coup, c'est en effet un public qu'on a du mal à toucher parce que elles vont pas trouver l'information sur Internet, elles vont pas trouver cette information tout seules, et surtout, elles sont comme nous, professionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas qu'on peut réapprendre à lire et écrire à tout âge.
Donc on va revenir sur ces solutions, mais sur ce tabou, c'est un point important, c'est que c'est pas un tabou, donc forcément pour la personne elle-même au départ, puisque ça veut dire que ces personnes vont quand même manifester leurs difficultés, mais c'est vraiment un silence en face de la réaction.
C'est ça, et qui n'est pas mal voulu, on va dire, c'est que les gens en face ne savent pas, malheureusement ce n'est pas intégré, c'est ça que j'aimerais faire dans les formations de travailleurs sociaux, dans les formations d'infirmiers, etc. Ce n'est pas intégré le fait qu'une personne sur 10 ne comprend pas ce qu'ils écrivent. Donc là on parle juste des personnes en situation d'illettrisme, si on rajoute à ça les personnes qui pour d'autres raisons ne comprennent pas non plus la littératie, en fait on en est presque à 40%. Donc en fait on devrait partir du principe que une personne sur deux quasiment en face de nous ne comprend pas des choses assez simples de l'écrit.
Peut-être on peut redéfinir littératie.
Donc littératie, c'est la capacité à comprendre les informations et à avoir accès aux informations assez simples en fait, hein, des choses. Donc on parle pas mal de littératie santé parce qu'en effet dans le domaine de la santé on est un peu plus au courant que les mots utilisés ne sont pas simples, mais en fait ça touche tous les domaines. Donc pour parler d'un terme qui est plus positif que l'illettrisme, on parlera en fait de littératie. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le milieu anglophone. Voilà.
On va reparler de ces solutions, à la fois la sensibilisation aux personnes qui sont dans l'entourage, que l'accompagnement des personnes concernées. Je vous propose avant juste une pause musicale. On va écouter une musique de Grand Corps Malade et Louane, Derrière le brouillard.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson? J'ai connu une sorte de brouillard.
et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement, ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement, quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
C'était Grand Corps Malade et Louane, Derrière le brouillard. Une musique qui fait penser au poids psychologique aussi que peuvent avoir ces personnes qui sont en situation d'illettrisme. Est-ce qu'il y a des difficultés à ce niveau-là pour ces personnes?
Oui, il faut vraiment imaginer comme un gros sac à dos à porter tout le temps pour toujours essayer de cacher ça. Et c'est très lourd. Et si justement on peut déjà en parler et poser ce sac, en fait, avoir confiance dans des gens, ça aide beaucoup. Et de l'autre côté, bah justement, le fait de réapprendre à lire et écrire, en fait, c'est un levier énorme sur l'accès à la santé, l'accès à la culture, à l'emploi, etc.
On peut imaginer de toute façon que c'est aussi une grande démarche, un grand pas. Il faut du courage aussi pour passer ce cap, d'aller demander de l'aide pour réapprendre. Et c'est ce que vous faites, vous. Donc on va parler des solutions justement pour réapprendre. Qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se déroule?
Donc là, je suis vraiment contente d'avoir trouvé le CODES 05, qui est financé aussi par l'ARS, qui a accepté du coup de mettre en place cet atelier Rallye Santé, donc réapprendre à lire et à écrire par la thématique de la santé. Donc là, on cherche justement une porte d'entrée qui va être plus, j'ai des difficultés de santé, je ne comprends pas ce que je dois faire, un IRM, un diabète ou quelque chose. Donc là, on va aider à comprendre ce que c'est. Mais pour dépasser l'accompagnement individuel, on va proposer à la personne d'apprendre à écrire et comprendre soi-même les documents de santé. Donc c'est de 14h à 16h tous les mardis après-midi dans les locaux de la Sécu, donc au Cro à Briançon. Et du coup, il y a un petit groupe pour l'instant de 4 qui est très sympa, avec des niveaux un peu différents, et où on réapprend du coup. Donc il y a une approche un peu, c'est l'approche un peu de la voie directe que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Monique Huot-Marchand, qui a travaillé 40 ans avec ce public, qui m'a formée. Et donc, c'est vraiment l'idée d'apprendre à lire en lisant, comme on apprend à marcher en marchant. Donc, c'est un peu la méthode qu'on a eue par les grands-parents ou les parents qui nous ont lu des histoires. On voit le texte, on voit le contexte avec les images, on entend les mots. Donc, on ne les prend pas sur les genoux, bien évidemment. Et donc, on part de textes dont ils ont envie, qui les motivent, des documents qui vont être importants pour eux. Donc, ce n'est pas que du administratif, parce que ça peut être pénible. Et on va surligner les mots qu'on repère. On va chercher un petit peu des mots, des indices, pour essayer avec des questions qui vont nous permettre de comprendre ce texte-là. Et puis, on va avoir toujours on va écrire aussi des choses qui sont importantes pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Enfin, avec nous, écrire notre pensée aussi. Parce que lire, c'est comprendre, et écrire, c'est s'écrire.
Et le fait d'axer ces ateliers sur la santé permet-il finalement de faire venir plus de personnes?
Alors, c'est une porte d'entrée qu'on a choisie du fait du CODES aussi, qui fait de la prévention et de la littératie santé. On pourrait très bien prendre, pour moi, il faudrait qu'il y ait plusieurs ateliers rallye comme ça sur différentes thématiques. Ça peut être le numérique, justement. Ça peut être, d'abord, la personne, elle vient avec un besoin d'apprendre à utiliser un ordinateur. Elle peut venir avec un autre besoin. Et en fait, à partir de ça, on utilise ça au départ. Et puis, en fait, finalement, on va s'ouvrir à pas mal de thématiques différentes. Donc, on va aussi faire la gestion du budget. On va aussi faire, parce qu'il y a une personne qui va demander, on va aussi faire, l'alimentation, les courses. Enfin, c'est très varié. En tout cas, c'est la vie quotidienne, c'est des choses dont ils ont envie, c'est leur motivation. Et puis à partir de ça, on utilise tout besoin de départ ou toute envie pour après réapprendre.
Quelles sont les principales difficultés à ce réapprentissage pour des adultes?
Bah, il va y avoir des blocages parce que forcément, on a été à l'école, on n'a pas forcément bien vécu des choses à cette période-là, hein, pas forcément qu'à l'école. Et donc, du coup, bah, y a des choses qui reviennent. Donc, mais ce qui est chouette, c'est qu'on voit qu'il y a des blocages qui se font comme ça du jour au lendemain. C'est un peu comme si vous imaginez un puzzle avec, en fait, la personne, elle a plein de morceaux de puzzle dans la tête puisqu'elle était à l'école, elle a appris plein de choses, mais ils ne sont pas forcément raccrochés. Et donc, tout d'un coup, il y a des choses qui se raccrochent. Et là, c'est assez chouette de voir ce qui se passe. Et puis, parfois, bah, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est sûr qu'une fois par semaine, 2 heures, bah, c'est pas assez. Donc, on espère trouver des financements pour pouvoir avoir une vraie offre de formation en plus de ces ateliers pour que les gens qui souhaitent vraiment, une fois qu'ils sont en démarche, en processus de réapprentissage, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Donc, ce serait chouette de pouvoir, voilà, quelqu'un puisse apprendre vraiment plus régulièrement.
Puisque vous, en dehors de ces ateliers rallye, vous proposez d'autres formations, déjà à titre personnel d'auto-entrepreneuse en tout cas?
Oui, voilà. Donc moi, ce que je propose, bah, la première chose, hein, c'est ce qu'on a compris par rapport au tabou, c'est moi, je propose des formations de sensibilisation pour les professionnels ou les bénévoles. Donc, comprendre ces publics, comment est-ce qu'on est dans cette situation alors qu'on a été à l'école, qu'est-ce que ça a comme enjeu sur la santé, sur l'emploi, sur tout ça. Donc, ça peut être pour des formations pour des gens de France Travail, pour des gens de travailleurs sociaux, pour des gens de mairie, c'est très large au niveau de la santé. Ensuite, je propose des formations aussi accessibilité sur comment est-ce qu'on se rend accessible à ce public-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a une page internet ou un flyer qui va être avec peu de, au lieu d'utiliser des phrases compliquées, des choses simples, du langage facile à lire, à comprendre, des pictogrammes, la facilitation graphique, des choses comme ça, et comment est-ce que justement on intègre dans son processus d'accueil d'accompagnant la question, tout simplement, voilà, où est-ce que vous en êtes vous au niveau de la lecture et l'écriture, de même qu'on demande la situation familiale, etc. Et puis qu'est-ce qu'on propose une fois qu'on a repéré quelqu'un, donc savoir bien orienter, savoir comment est-ce qu'on réduit les barrières, hein, parce qu'en effet, comme vous le dites, c'est dur de réapprendre à lire et à écrire, de faire le pas, mais si on dit bah, là-bas il y a cet atelier, tu vois la sécu où c'est, bon, bah, très bien, bah, là c'est de 2h à 4h, il y a deux femmes qui sont sympas, qui je pourrais t'accompagner, ou alors en tout cas elles pourraient venir te rencontrer aussi si tu n'oses pas y aller, il y a 4 personnes très sympas qui participent à l'atelier, enfin voilà, il y a des manières en fait de réduire un petit peu ces barrières là en disant t'en est capable, il n'y a pas de souci.
Donc finalement, ces formations sont destinées, enfin vous faites des formations en tout cas destinées autant auprès des personnes concernées, et c'est évidemment le cœur aussi, mais presque tout aussi important sur l'entourage, les personnes qui vont accueillir du public, qui font de l'accueil, et pour eux, qu'est-ce qui permet de repérer? Si on devait d'accompagner ces personnes, si on devait avoir quelques outils comme ça.
Moi, je pense que avant, on donnait beaucoup d'indices, d'outils, de repérage. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, hein, pendant 10 ans à Berlin, on a fait ça. On avait 10 formateurs qui faisaient que ça. Et en fait, on se rend compte que les professionnels n'osaient toujours pas en parler. Et parce qu'ils attendaient des indices de repérage. Moi, je pense qu'il faut arrêter de chercher à repérer quelqu'un. En fait, il faut en parler assez simplement. Il faut, en les considérant, bien sûr, avec sentir d'égal à égal, et puis une bienveillance, et leur donner une porte, en fait, ouverte. Même s'ils nous disent non, moi je sais écrire, de dire bah, vous savez, il y a plein de gens pour qui c'est une difficulté, en tout cas n'hésitez pas, ici c'est possible, si vous connaissez quelqu'un aussi, c'est possible, et voilà, les mardis matins, du coup il y a la permanence aussi du CODES de 10h à midi, où pour tout problème qui aurait des difficultés de compréhension au niveau de la santé ou autre, puisse venir en fait et nous rencontrer en individuel, ça peut être aussi plus facile que de venir tout de suite en atelier. En tout cas, voilà, pour eux, moi, je pense qu'il faut en parler assez simplement. Mais les outils de repérage, ça peut être en effet quelqu'un qui fait pas mal de formations mais qui ne les finit pas jusqu'au bout, quelqu'un qui ne réussit pas le test technique alors qu'il est très bon. Voilà, ça peut être peut-être une petite anecdote là-dessus. Mais j'ai rencontré quelqu'un donc, par la plateforme des aidants, qui c'est sa femme en fait, qui s'en est rendu compte parce qu'ils avaient un enfant qui avait un handicap. Et là, elle s'est dit, moi, je ne pouvais pas gérer tout seul. Donc là, elle s'est rendue compte que le papa ne savait pas lire et écrire. Et là, elle lui a dit, non, soit tu réapprends, soit c'est plus possible. Je l'ai rencontré, je lui ai montré qu'il était capable de réapprendre. Donc, il m'a dit, bon, dès que je signe un CDI avec mon employeur, je lui en parle. Et en effet, moi, quand il m'a appelé en me disant, ça y est, appelle mon employeur, il est au courant. J'ai eu l'employeur qui m'a dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, je savais qu'il avait réussi deux fois, raté deux fois le le test technique, mais j'ai quand même accepté quand même de le prendre. Et c'est le seul qui est en CDI, c'est le seul qui est à temps plein. Et là, maintenant, j'apprends qu'il ne sait pas lire et écrire. Et je lui dis, pourquoi vous l'avez pris ? Il me dit, parce que justement, pourquoi lui ? Parce qu'il a tellement de compétences. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a quand même finalement... Et maintenant, il me dit, mais bien sûr, en fait, j'aurais dû le savoir. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est ça qui est le plus important. Pour moi, le message, c'est vraiment à tous les professionnels et toutes les personnes qui se disent, tiens, lui, il a des difficultés à l'école, ce scolaire, ce n'était pas son truc. Demandez-lui, au fait, t'en es où, toi, de la lecture et de l'écriture ? Est-ce que tu l'utilises ou tu l'évites ? Si quelqu'un l'évite, c'est que là, on n'est plus en remise à niveau, on est vraiment déjà dans cette situation-là.
Déconstruire le tabou en ouvrant la parole. Et ça fait penser au témoignage qu'on écoutait tout à l'heure de cet autre apprenant qui disait que lorsqu'il a passé son code, finalement, au lieu de lui proposer, et vous le dites, c'est votre voix qu'on entend donc dans ce témoignage, au lieu de dire c'est possible, tu peux réapprendre, on peut t'orienter vers des formations, la personne a plutôt adapté le test à l'oral. Mais du coup... Laisser cette apprenante, enfin, aujourd'hui cette personne qui est apprenante avec ses difficultés finalement. Donc parlons-en, et justement si on en parle, mais vers quoi orienter ? Puis il y a ces formations là, on en parlait, Rallye, là c'est sur notre territoire, mais pour des personnes qui seraient sur d'autres territoires, y existe-t-il d'autres formations ailleurs ?
Alors oui, moi je connais le FOP à Grenoble qui fait ça depuis plusieurs années. Donc ça, c'est une formation professionnelle pour ce public-là. Après, il y a eu des formations qui ont existé, mais là, en ce moment, il me semble qu'il n'y en a pas. Il y a une association aussi, quelque chose à Nice, avec des bénévoles. Après, donc, pour se renseigner, il y a le site du CRIA, du Centre de ressources illettrisme-analphabétisme. Donc, il y a pas mal de ressources. Par contre, voilà, ce que je regrette, c'est que ce soit mélangé illettrisme-analphabétisme, parce qu'on a déjà tendance à le mélanger. Donc, si en plus, on mélange les publics... Le public en situation d'illettrisme passe un peu la trappe. Il y a aussi le site de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc là aussi, il y a un téléphone. Malheureusement, je ne le connais pas.
Je ne l'ai pas pris non plus.
Parce que je sais qu'il renvoie de toute façon vers le centre de ressources illettrisme analphabétisme. En tout cas, voilà, il ne faut pas chercher des formations illettrices parce qu'on veut apprendre à lire et à écrire. Donc ce serait plutôt de la littératie, de l'alphabétisation, mais pour ce public-là. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est justement ça, moi, que j'aimerais pouvoir développer. C'est un problème de financement, hein. C'est un problème qu'il faut toujours qu'il y ait au moins 8-10 personnes qui soient dans la formation pour commencer une formation, alors qu'on a besoin en fait d'entrée-sortie permanente, on a besoin de commencer avec 2 personnes, et puis après le bouche à oreille fonctionne. Donc il faut des offres qui soient stables en fait, qui existent pendant des années, et c'est d'ailleurs les structures qui existent encore, c'est celles qui en fait sont là depuis des années. Donc donc voilà. Moi, je pense à une chose peut-être par rapport à Parlez-en, c'est que moi, j'ai rencontré trop de personnes à Berlin qui avaient 60 ou même 80 ans qui m'ont dit « Mais comment ça se fait que dans toute ma vie, personne ne m'ait dit que je pourrais réapprendre à lire et à écrire ?» Et je crois que c'est ça mon message, c'est de dire « Ne soyez pas cette personne-là qui a rencontré plein de gens sur sa route et qui n'a pas parlé de ça. C'est notre devoir. »
Donc, ce sera le message de la fin, sachant que, donc, au-delà de toutes ces ressources, on rappelle qu'il y a, en tout cas, par chez nous, dans le 05, dans les Hautes-Alpes, les ateliers Rallye Santé du CODES 05, tous les mardis. Et puis, il y a aussi parfois de la sensibilisation, surtout en ce moment, puisqu'on en a parlé avec la semaine donc de lutte contre l'illettrisme. Et nous, par ici, à Briançon, le samedi 28 septembre, il y a une projection d'un film documentaire. Vous y serez, Claire ?
Oui, exactement. C'est une projection de débat à 15h à la médiathèque de Briançon. Donc, on en coanime ensemble. Et donc, il y aura justement 2 apprenants, dont le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, qui vont témoigner. Donc, c'est un film sur cette thématique-là d'1h25. Et après, il y aura un témoignage et on sera là pour écouter les questions. Voilà.
Super, merci Claire d'avoir été là. On garde donc de cette thématique. Il faut en parler, surtout en espérant que des formations se développent. Il est temps de clôturer cette émission. Ah, Claire, vous voulez rajouter quelque chose ?
Est-ce que je peux donner justement mon contact, peut-être, pour que les gens puissent m'appeler si jamais ils veulent mettre des choses en place ou ils ont encore des questions ? Donc, c'est 06 75 72 84 57. Et sinon, c'est claire.zynga, zynga@axe-cible.com.
Cette émission sera de toute façon mise sur le site internet de Fréquence Mistral et on remettra éventuellement toutes ces coordonnées pour plus de facilité.
Chez moi pas d'étranger. Chez moi on sait comment s'aider. Chez moi on sait comment s'aimer. Chez moi on sait comment rêver. Dans les joies comme face au danger. Toujours quelque chose à manger. Toujours quelqu'un pour me parler. Quand j'ai le cœur un peu blessé. Et si tu savais comme j'ai pu prier, le ciel priait qu'il m'entende. J'attendais là juste au bord de la route que la chance vienne me prendre. À l'abri sous mon étoile, il fera jour demain. Pour la famille et les miens, c'est ma vie, mon histoire. À coup de rêve et d'espoir, comme il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour y croire. Jamais, jamais trop tard. Oh, oh, jamais, jamais trop tard. Chez moi on parle fort pour se donner du courage. C'est pas le mauvais sort, mais du soleil sur mon visage. Chez moi les chercheurs d'or ont tous la tête dans les nuages. Chanter, danser dehors, Dieu va c'est mon seul héritage. Et si tu savais comme j'ai pu prier, le ciel priait qu'il m'entende. J'attendais là juste au bord de la route que la chance vienne me prendre. À l'abri sous mon étoile, il fera jour demain. Pour la famille et les miens, c'est ma vie, mon histoire. À coup de rêve et d'espoir, comme il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais, jamais trop tard. Oh, oh, jamais, jamais trop tard. Hey, jamais, jamais trop tard. Jamais, jamais tard. Jamais, jamais tard. Si tu savais comme j'ai pu prier, le ciel priait qu'il m'entend. J'attendais là juste au bord de la route que la chance vienne me prendre. À l'abri sous mon étoile, il fera jour demain. Pour la famille et les miens, c'est ma vie, mon histoire. À coup de rêve et d'espoir, comme il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour y croire. Jamais, jamais trop tard. Jamais trop tard.